la presse d'Europe 1, 19h-20h, Nicolas Poincaré.
En direct jusqu'à 20h, le club de la presse avec deux invités. Après 19h40, nous serons avec Nicolas Arpaillan, expert en sécurité informatique, après la cyberattaque mondiale de la semaine dernière. Mais tout de suite, le premier invité du club de la presse, c'est le secrétaire général de la CFDT. Bonsoir Laurent Berger.
Bonsoir.
On a compris que la réforme du Code du travail allait être la grande affaire du début de ce quinquennat. Emmanuel Macron et Édouard Philippe consultent depuis hier. La réforme pourrait être adoptée par ordonnance en septembre prochain. Alors, quels sont les enjeux? Est-ce que vous craignez une loi El Khomri en pire? Est-ce que vous allez, comme souvent, privilégier le dialogue à l'obstruction? Est-ce que vous allez vous fâcher si on remet en cause votre compte pénibilité? Toutes ces questions, on vous les pose avec Anna Cabana du Journal du Dimanche et Bruno Jeudy de Paris Match. Bonsoir.
Bonjour Nicolas.
À tous les deux. D'abord, Laurent Berger, les chiffres du chômage, ils sont tombés il y a tout juste une heure. Moins 1% au mois d'avril, moins 35 000 chômeurs pour le dernier mois de François Hollande. C'est plutôt une bonne nouvelle.
À chaque fois que le nombre de chômeurs baisse, ça veut dire que des gens ont retrouvé du travail, c'est une bonne nouvelle. Mais je crois qu'on a une nouvelle ministre du Travail qui a décidé de pas les commenter tous les mois et de regarder les chiffres du BIT, du Bureau International du Travail, qui sont sans doute beaucoup plus fiables et qui permettent de voir les grandes tendances sur les trimestres. Personnellement, je trouve ça bien, parce que j'étais un peu agacé par ce rituel mensuel où il fallait commenter une légère baisse, une légère hausse, etc. Et puis pendant 29 jours ensuite, on laissait un peu ça de côté, on parlait pas des chômeurs, de ce qu'il fallait pour eux.
Ils sont pas fiables, ces chiffres mensuels, c'est ce qu'elle laisse entendre.
En tout cas, ils sont contestés. Stable,
oui. Mais c'est une rupture en matière de communication et de politique de faire ça. C'est-à-dire qu'elle elle montre qu'elle veut rompre avec l'ère précédente, avec même les ères précédentes.
Oui, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire qu'en début. Si vous le faites au milieu, vous imaginez, au bout de deux ans et demi ou trois ans, le précédent gouvernement dit finalement, on ne va pas faire
François
ça tous les mois.
François Hollande, c'était un peu essayé.
Mais ce n'était pas tenable, ouais. Évidemment, on comprend pourquoi. Donc c'est plutôt bien de le faire dès le départ et de se dire, voilà, il y a des chiffres qui sont fiables, c'est ceux du Bureau international du travail, et là-dessus, ça permet de travailler, et de travailler un peu plus sur la durée que simplement tu dis, ça augmente ce mois-ci, c'est pas assez grave, et puis, c'est toujours grave d'ailleurs, mais ça baisse légèrement, donc c'est une bonne tendance. Non, on a vu que ça faisait le yo-yo, les chiffres trimestriels, c'est plus fiable.
Alors, si on travaille justement sur la longueur, on peut faire le bilan du quinquennat Hollande, puisque c'était les derniers chiffres de ce quinquennat, moins 567 900 emploi, donc plus de 567 000 chômeurs de plus en 5 ans, c'est quand même énorme.
Oui, c'est énorme. Ça prouve deux choses. D'abord, une situation économique qui a été très dégradée, même si aujourd'hui on s'aperçoit que les choses repartent. L'autre élément, c'est qu'on n'a sans doute pas fait assez. Et pas fait assez, pas tant sur la politique économique, dont on voit que le pacte de responsabilité, malgré le peu d'engagement du patronat à tenir des contreparties sur l'embauche de jeunes, la lutte contre le chômage de longue durée, a sans doute produit des effets économiquement, mais le boost sur la création d'emplois a été insuffisant. Et ce qui a été aussi insuffisant sans doute, puisque les chiffres le montrent, c'est l'accompagnement concret des demandeurs d'emploi. Et ça fait partie d'un des sujets que j'ai rappelé au nouveau président de la République hier, parce que ça me semble nécessaire que toutes les réformes qui soient faites un peu à hauteur d'homme, en essayant de résoudre les situations concrètes des personnes. Aujourd'hui, on a des gens qui sont scotchés dans le chômage, et il y a besoin de mesures extrêmement incitatives, extrêmement fortes, pour les aider à repartir à l'emploi. Et là, il y a une responsabilité des entreprises.
Alors justement, vous avez vu Emmanuel Macron hier, c'était votre premier tête-à-tête avec le nouveau président de la République, ça s'est passé comment ?
Correctement, comme la relation entre un président de la République et un responsable syndical, c'est-à-dire moi je lui ai d'abord dit l'inquiétude que j'avais sur la situation économique et sociale. On est à la fois un pays qui a exprimé des attentes, mais aussi beaucoup d'inquiétudes et de craintes. Et donc face à tout cela, il va falloir mener des politiques qui répondent aux situations concrètes. Les situations concrètes, c'est la réponse aux fractures sociales. On vient de parler du chômage. C'est la réponse à la situation des jeunes. C'est aussi la réponse aux fractures territoriales, parce qu'on a vu dans les élections qu'il y avait un nombre croissant de citoyens qui a raison ou à tort d'ailleurs. Enfin, mais en tout cas, ont un profond sentiment de délaissement et d'abandon. Et là, je crois que les politiques publiques, elles doivent remettre de l'énergie à redonner de la confiance.
Anna Kamana.
Vous l'avez trouvé, vous avez dit à l'écoute. Ça veut dire quoi à l'écoute, très concrètement ?
Ça veut dire que quand le président de la République dit on pourrait faire comme ça sur tel ou tel sujet, par exemple sur les ordonnances, et j'ai plutôt l'ambition de les signer dans le courant du mois d'août, et lorsqu'on lui dit attention, ça ne vous laissera pas le temps nécessaire de la concertation
vous
sur les sujets compliqués.
C'est intenable et impossible. Hein,
oui, c'est
ça,
de
vous
mon
avez
point
dit.
De vue intenable et impossible. En plus, c'est un très mauvais signal démocratique. Je crois qu'il ne faut pas... Il ne faut pas négliger l'attente démocratique qui a été celle des citoyens dans leur élection. dans le sentiment d'avoir un peu plus de prise.
Vous avez l'impression qu'il va détendre le calendrier ?
Oui, c'est ça, à l'écoute.
Mais écoutez, pour l'instant, on verra. Moi, je vois le Premier ministre et la ministre du Travail lundi. Et donc, on verra. Mais en tout cas, je l'ai senti à l'écoute. J'ai senti qu'il était à l'écoute des arguments que j'avais développés.
Et vous avez dit qu'il ne fallait pas procéder à la hussarde. Mais pourtant, Emmanuel Macron, c'est un peu un hussard en politique. Vous croyez qu'il va résister à ce tempérament politique qui est le sien ?
Je vous laisse votre appréciation sur le président de la République. Je pense qu'il ne faut pas confondre rapidité et précipitation. On a tous compris qu'il y avait une volonté de la part du président élu, qui est légitime. D'aller assez rapidement sur une réforme à la fois du dialogue social dans l'entreprise, dans les branches et d'un niveau national. Qu'il avait une volonté de rediscuter de la façon dont s'organisent les relations sociales dans les entreprises, avec des éléments qui, y compris, nous intéressent en termes de codétermination, un peu le système à l'allemande. Qu'il y avait besoin, il avait aussi la volonté d'aller sur certaines mesures de simplification, comme ils disent, par exemple, les prud'hommes ou autres. Tout le monde a compris qu'il avait la volonté de le faire. Soit il le fait avec précipitation et il y a une incapacité à se comprendre, à écouter ce que sont les propositions du patronat et des organisations syndicales. Et là, je pense que ça passera pas. Soit il le fait avec concertation, en écoutant, en confrontant, et à la fin il décide, puisque de toute façon il y aura un Parlement, il y a une légitimité politique. Mais c'est pas du tout la même démarche.
Et en tout cas, il passe par ordonnance, et c'est ça dont on parle juste après une première pause, Laurent Berger.
Et vous pouvez nous rejoindre sur Internet, suivez l'émission en direct et en vidéo sur europe1.fr.
19h, 20h, le club de la presse d'Europe 1.
Jusqu'à 20h, le club de la presse d'Europe 1 avec vous, Nicolas Poincaré, avec Anna Cabana du journal du dimanche et Bruno Jeudy de Paris Match. Vous recevez le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.
Pour parler de cette réforme du code du travail qui va donc venir vite, c'est ce qu'Emmanuel Macron vous a confirmé hier, Laurent Berger. Il veut passer par ordonnance avant la fin de l'été, c'est-à-dire avant le 21 septembre, on peut imaginer. Et Maud Descamps, on a demandé à nos auditeurs cet après-midi sur Internet, est-ce qu'ils sont choqués par cette façon de faire, c'est-à-dire passer par ordonnance ?
Écoutez, le match est serré hein, ce soir, avec 54% de nos votants qui se disent choqués par cette méthode. Benoît, qui se dit inquiet, y voit une méthode rapide, certes, mais surtout un moyen d'éviter d'avoir à écouter les partenaires sociaux. C'est aussi ce que dit Véro. C'est terrible, par exemple, de savoir qu'une loi qui va revenir sur des acquis sociaux puisse être passée en force. Samuel, lui, nous écrit que les ordonnances ont toujours été utilisées. Ça n'a jamais posé de problème. Gisèle, elle, nous écrit bien que c'est pour cela précisément qu'Emmanuel Macron a été élu, pour aller vite. Et enfin, Pascal nous écrit avec des syndicats forts, on ne parlerait même pas des ordonnances aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Pascal, à votre avis ?
Je crois qu'il a tort, Pascal. Parce que le vrai sujet, ce n'est pas la façon dont ça discute au Parlement. Ça regarde le gouvernement et sa future majorité. Le vrai sujet, c'est entre la loi d'habilitation qui lance les ordonnances et le moment où c'est clos par une nouvelle loi, je ne sais plus comment elle s'appelle, de validation des ordonnances. C'est là, tout dépend de l'espace, temps qu'on nous laisse pour faire valoir nos propositions, nos contre-propositions, pour enrichir le texte, etc. Et moi, le vrai sujet, il n'est pas le sujet des ordonnances, dont je rappelle d'ailleurs au passage que les 39 heures, la cinquième semaine de congés payés et bien d'autres choses sont passées par ordonnance.
La forme de retraite, baladure.
Moins positif que les sujets dont je viens d'évoquer, vous me le permettrez.
Ordonnance aussi.
Donc ça prouve bien que des choses bonnes ou pas bonnes peuvent passer par ordonnance, peu importe, mais que c'est une procédure législative qui concerne d'abord le Parlement. Moi, ce qui m'intéresse comme syndicaliste, et ce qui nous intéresse avec un certain nombre de nos collègues syndicalistes, c'est d'avoir le temps de poser les affaires et de regarder comment on peut s'organiser le dialogue social, comment on peut faire des contre-propositions quand des positions ne nous vont pas, comme par exemple la barémisation des indemnités prud'homales. Eh bien, tout cela, il faut du temps, il faut de la concertation, il faut du travail. Et le mois de juillet et puis le mois de septembre ne sont pas de trop. Je pense que c'est ce que nous avons demandé à plusieurs, qu'il y ait un recul jusqu'au mois de septembre. Et ça sera rapide malgré tout.
Comme la barémisation des indemnités prud'homales, enfin plafonnement, c'est vraiment la chose sur laquelle vous bloquez le plus par rapport aux sujets qui ont été mis sur la table. C'est ce qui met en colère la CFDT.
Vous savez, la colère, on peut être en désaccord sans être en colère. Je trouve ça injuste. Le principe de la justice, c'est une réparation intégrale des préjudices subis. Et lorsque vous avez subi un licenciement abusif, parce que l'employeur n'avait pas de raison de vous licencier, il l'a fait quand même malgré tout, pour des raisons de santé, ça arrive assez régulièrement malheureusement, pour d'autres raisons aussi, par exemple de maternité, Lorsque ça passe au tribunal des prud'hommes, on vous répare l'entièreté du préjudice. Si on met un plafond trop bas, tout le préjudice pourra ne pas être réparé. On a fait des cas concrets. Entre des gens qui touchent autour de 40 000 euros de réparation, seraient amenés avec un plafond tel qu'il était prévu dans une loi précédente et qui a été retiré, avec des indemnités prud'hommales qui seraient de moitié. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Donc, nous allons faire des contre-propositions pour que on tombe pas dans cette situation. Il faudra aussi, s'ils s'engagent là-dedans, qu'il y ait un plancher. Enfin, voilà. Je pense que ça peut pas être un plafond extrêmement bas qui aura un premier effet. Je l'ai dit d'ailleurs au président de la République. Ce premier effet sera qu'un certain nombre d'entreprises seront tenter de se séparer d'un certain nombre de salariés dont ils ne veulent plus, avec un plafond en disant bah voilà, ça me coûtera tant, je le provisionne et basta. Donc c'est pas ma vision de la justice.
Anna Cabana.
Mais vous avez, quand on vous entend, on a le sentiment que vous avez perçu qu'Emmanuel Macron était réceptif à vos remarques et à vos contre-propositions. Et vous-même, vous avez été réceptif à son sens de la persuasion. Est-ce que, enfin voilà, dans un entretien comme ça, s'imagine que ça se fait des deux côtés, est-ce qu'il est persuasif, Emmanuel Macron ?
On aime bien dans notre pays faire croire que les uns contre les autres, on se mettrait des beignes,
etc. Voilà, c'est pour ça que je vous parle
moi,
de persuasion.
Moi, j'ai jamais procédé comme ça. Je crois être pugnace et persuasif quand il le faut. Et je suis respectueux de mes interlocuteurs. D'abord, j'avais le président de la République en face. Donc, on est forcément respectueux avec le président de la République. Ça me paraît être une base assez claire. Et ensuite, par contre, je suis franc.
Mais il a une vraie force de conviction, ce président de la République là.
Oui, sans doute. D'abord, il a gagné l'élection,
non, donc
il doit en avoir un peu.
Vous pouvez l'avoir éprouvé.
Il est déterminé, mais il est à l'écoute.
Mais vous.
Et moi, je préfère des gens cash. Vous savez ce que je lui ai dit aussi, c'est qu'il faudra que tout soit sur la table.
Et il est cash.
On rencontre.
Est-ce qu'il est cash?
Oui, il est cash. On rencontrera. Certains ont commencé aujourd'hui. On rencontrera la ministre du Travail et le Premier ministre lundi prochain. Et ensuite, on nous a dit que peut-être il pourrait y avoir une réunion multipartite. Enfin, le lancement un peu, le go de ce travail de concertation. Moi, je souhaite que tout soit sur la table. Qu'on se dise les choses. Que les choix soient faits en transparence. Qu'on ne revienne pas sur des choses qui ont été faites et on se disait, mais est-ce que c'est ça qu'il va y avoir finalement dans le texte? Non. C'est quoi le point de départ et comment s'organise la concertation? Combien de réunions? Combien de fois on se voit? Comment on confronte? Et à la fin, évidemment, il y aura un pouvoir politique, un Parlement qui décidera.
Non, mais il y a un truc que je ne comprends pas. De toute façon, vous, l'année dernière, vous avez accompagné la négociation de la loi El Khomri. Cette année, à vous entendre, on comprend plutôt que vous êtes pour le statu quo. Vous n'avez pas envie qu'on remette sur le métier cette question de la réforme du Code du Travail.
D'abord, moi, je pense que la réforme du Code du Travail, c'est pas ça qui, en soi, intrinsèquement, crée de l'emploi. Ça devra s'accompagner, mais c'est aussi des mesures qui sont prévues dans les concertations sociales. D'accompagner une mesure forte sur la formation des demandeurs d'emploi, de mesures fortes sur la formation des salariés, mais également sur l'investissement. Et il est prévu là-dessus, dans le programme de M. Macron, il est prévu qu'on y revienne d'ailleurs en termes de discussion, des choses. Mais le Code du travail, vous ne trouvez plus grand monde pour dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une nécessité de le simplifier. Le simplifier, ce n'est pas de faire moins, c'est de faire mieux. Donc là-dessus, nous ne sommes pas opposés, comme quasiment personne n'est opposé à cette vision. La seule chose, c'est que la question qui est posée, c'est comment on fait en sorte que le Code du travail est une chose, mais qu'en plus, on renforce de la négociation d'entreprise au plus près d'où sont les salariés pour créer des droits les plus adaptés pour eux et des situations les plus adaptées. Là-dessus, moi, j'ai toujours été convaincu que ça, je continue de l'être. Et ça ne peut pas se faire à n'importe quelle condition. Ça doit se faire avec un Code du travail qui est un socle extrêmement solide et clair de principes sur lesquels, en l'absence d'accord, on ne peut pas déroger, ou alors de principes sur lesquels, de toute façon, nous ne pouvons pas déroger. Genre les conditions de sécurité, le SMIC, qui ne sont pas discutables ni dans les branches ni dans les entreprises. Donc, vous savez, c'est un moment intéressant. Moi, il faudrait arrêter de se faire peur. Je veux dire, il faudrait déjà avoir les banderoles pour ou contre les ordonnances, pour ou contre une loi dont on ne sait pas comment elle s'appellera et ce qu'elle contiendra. Eh bien, discutons. Nous sommes dans un pays mature où il faut discuter, il faut confronter nos points de vue. C'est pas anormal qu'ils soient parfois divergents. Et puis, on verra à la fin.
Mais vous dites qu'il faut arrêter de se faire peur. C'est exactement, quasiment, les mots d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Il a dit aux Français une exhortation qui était « N'ayez pas peur ». Ça veut dire que vous, en fait, finalement...
Enfin, d'abord, je crois que c'est un pape qui a dit ça la première fois.
Oui, mais attendez, ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, reprend ses mots, fait sien les mots du pape en disant « N'ayez pas peur ». Mais ça veut dire que vous allez être l'allié du gouvernement dans ce moment important.
Mais la CFDT n'est ni l'allié, ni un allié, ni un opposant de principe. Je l'ai dit très clairement.
Non, mais souvent à la fin, vous signez. Quoi. Quand les autres ne signent pas, vous signez.
Mais d'abord, une loi, ça ne se signe pas. Ouais. Nicolas, ça ne se signe pas. Donc la CFDT n'a jamais signé de loi. Elle a parfois contribué. Vous savez, ce que les salariés attendent d'une organisation syndicale, c'est qu'elle fasse des propositions et qu'elle donne une vision de sa, enfin, sur sa conception du monde du travail. Moi, nous avons fait une grande enquête qui s'appelle Parlons Travail. 200 000 salariés ont répondu. Quelle a été l'attente numéro 1 ? L'attente numéro 1, c'est d'avoir davantage de paroles et de prises, de possibilités de peser sur les choix qui nous concernent dans l'entreprise et sur notre travail. Et ça, ça ne se fait pas décrété d'en haut, ça se fait en restaurant davantage de relations sociales, davantage de dialogue social au plus près des salariés dans les entreprises. C'est un des enjeux possibles de cette loi. L'autre élément, c'est qu'il faut se réinterroger sur ce qu'est l'entreprise. L'entreprise, ce ne doit plus être spécifiquement la seule propriété, en tout cas dans la façon de fonctionner, de ses actionnaires. Et donc, moi, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin sur une forme de codétermination à l'allemande. C'est ce que j'ai dit.
Ah ben justement, c'est là-dessus que je voulais vous interroger. C'est quoi la codirection à l'allemande ? On vous pose la question juste après. La pub, à tout de suite.
Et vous réagissez, posez vos questions pendant le Club de la Presse sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag E1 Soir.
19h, 20h, le Club de la Presse d'Europe 1.
Suite du Club de la Presse d'Europe 1 avec Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, est interrogé ce soir par vous, Nicolas Poincaré, et par Anna Cabana du Journal du Dimanche, Bruno Jeudy de Paris Match et Maud Descamps pour les réseaux sociaux.
Laurent Berger, vous avez été reçu hier par Emmanuel Macron, vous serez reçu par le Premier ministre lundi, donc pour parler de cette réforme du Code du Travail, et vous nous disiez des choses intéressantes depuis le début de cette émission. Vous nous disiez, n'ayons pas peur, réinventons le monde du travail, c'est l'occasion, on est prêt à beaucoup de choses. Vous nous disiez notamment, on pourrait aller vers une sorte de co-direction des entreprises à l'allemande. Ça veut dire quoi ?
D'abord, on pourrait inventer une forme de codétermination à la française, mais ça, en s'inspirant de ce qui peut se passer en Allemagne. Je précise, moi je crois qu'il faut donner plus de poids aux représentants du personnel dans les entreprises, à la fois sur la question de la stratégie économique, mais également sur la question de la vie au travail. C'est ce qui se passe en Allemagne. Avec un système bien particulier que je ne crois pas transposable tel quel chez nous. Mais si on redonne plus de moyens aux instances représentatives du personnel, si on renforce la négociation collective d'entreprise et on fait que cette négociation collective ne puisse passer que par des organisations syndicales représentatives, eh bien, vous renforcez une forme de co-décision, en tout cas, d'association des salariés et de leurs représentants à la gestion, à la quotidienne de l'entreprise. Vous savez, à chaque fois que ça a été fait, souvent dans des situations difficiles d'ailleurs, mais vous regardez Roanne à Michelin, vous regardez STX, vous regardez Renault, y compris dans les situations difficiles où on met sur la table les choses. Et il y a souvent des accords qui se signent en tenant compte à la fois, des nécessités économiques, mais aussi de la vie au travail, du bien-être des travailleurs et de leur reconnaissance. Et moi, je crois à cette possibilité-là pour arrêter d'avoir une vision complètement délabrée de ce que serait la relation sociale, c'est-à-dire on se met sur la figure et on aboutit à rien.
Justement, sur cette question-là, pendant la campagne, il y a quand même eu une évolution d'Emmanuel Macron qui avait démarré la campagne. Le paritarisme n'était pas trop son truc. La vision des relations sociales, du dialogue social était quand même assez différente entre le début et la fin de campagne. Vous le rencontrez, il me semble, en fin de campagne, je crois, Emmanuel Macron. Mmh. Est-ce que vous-même, vous avez observé un bouger? Et est-ce que, surtout hier, vous avez vu un Emmanuel Macron différent de ce que vous aviez pu voir lors de vos rencontres précédentes? Parce que son discours a évolué quand même pendant la campagne.
Oui, je crois que le discours a évolué, mais moi je trouve ça normal que le discours des politiques évolue. J'ai pas envie de dire, ah du coup ils ont perdu, ils ont gagné, ils
non,
ont écouté un tel.
Je crois,
y compris il y a eu un discours à Albi. Il y a eu un discours à Albi pendant la campagne où il a dit beaucoup de choses sur la place des représentants des salariés dans les entreprises, la place du travail, les responsabilités des entreprises et une forme de co-gestion des entreprises. Je crois qu'il a des bougies. Possible, ça veut dire que c'est quelqu'un qui écoute. Donc c'est quand même très positif. Donc ça, je crois qu'il y a une conception du syndicalisme qui a pu bouger. Au début, il y avait une vision comme quoi le syndicalisme ne devait pas s'occuper de l'intérêt général et être envoyé dans les entreprises et être stricto sensu. Tant mieux si ça bouge. Vous savez, moi, c'est pas un match où à la fin il y aura un gagnant. Je crois qu'il y a une profonde attente dans notre pays qu'on soit capable de construction intelligente, de compromis sur ce qui est bien pour les salariés et pour d'autres acteurs tels que les chefs d'entreprise. Mais moi, je suis confiant dans cette capacité d'avoir un discours et un dialogue apaisé. Ça dépendra aussi.
Pour l'étatisation de l'assurance chômage.
Oui, maintenant c'est une forme de tripartisme sur lequel et tout. Et c'est une évolution. Cette discussion. Oui, c'est une évolution.
Mais moi, c'est une évolution.
Mais c'est très bien. Mais tant mieux si parce qu'ils écoutent les uns les autres et pas simplement que la CFDT, il y a des évolutions. Tant mieux. Mais faut présenter ça comme des évolutions positives et pas comme des reniements. Je crois que c'est l'exercice du pouvoir, c'est aussi comprendre. Et je crois qu'il y a une forme de compréhension de ce qui s'est passé. Il y a quand même un pays qui a voté à 11 millions. De gens ont voté pour le Front National, à considérer que c'était possible que le Front National gouverne. Ça veut dire qu'il y a une attente en termes de réponse à hauteur d'homme, concrète, et à la fois aussi en termes de démocratie, de pratique de la démocratie, qui est très très fort. Très très fort. Et la question démocratique à l'avenir, dans les mois et les années qui viennent, ça ne sera pas un supplément d'âme. C'est la façon dont on peut s'en sortir de ce pays qui se désespère lui-même. Et ça, pour cela, il faut écouter les corps intermédiaires, il faut avoir une pratique de la démocratie un peu renouvelée à l'écoute des citoyens. J'espère que le président de la République le fera.
Emmanuel Macron, il espère que les syndicats vont aussi se réinventer, parce qu'il veut que la réinvention soit générale. Est-ce que vous croyez, d'abord, est-ce que vous êtes prêts, vous, à vous réinventer? Est-ce que vous croyez que les autres syndicats sont prêts à se réinventer? C'est la question qui se pose.
C'est le principe de parler pour moi et pas d'engager les autres. La CFDT, ça fait un moment qu'on le fait. Ça fait plus de 10 ans qu'on a fait un rapport qui s'appelait « Le syndicalisme à un tournant, oser le changement ». Et nous avons renouvelé tout un tas de pratiques. C'est pas totalement par hasard que nous sommes devenus première organisation syndicale dans le privé depuis maintenant quelques mois.
Vous étiez macronien avant la lettre, la réinvention.
Non, on n'a pas eu besoin d'Emmanuel Macron pour s'interroger sur nous-mêmes et savoir comment on remettait de la proximité avec les salariés, qu'on réinvestissait beaucoup plus d'entreprises que là où on était présent. Ce travail-là, on l'a fait à bas bruit. Personne s'en intéressait, on ne demandait pas à ce que quelqu'un s'y intéresse. Et puis finalement, le 31 mars dernier, la CFDT est devenue première organisation syndicale et une organisation qui en même temps produit des idées. Mais je crois que c'est nécessaire. Je crois que tous ceux, demain, qui seront dans le commentaire et la posture et qui seront incapables de produire des idées subiront le même sort qu'un certain nombre de partis politiques ont subi dans les élections présidentielles. Et ça vaut aussi pour le syndicalisme parce que le syndicalisme, s'il ne se renouvelle pas, il mourra comme les autres.
Donc le dégagisme pourrait toucher les leaders syndicaux.
Je pense que toutes les institutions sont menacées par ceux qui considèrent qu'il faut faire
du... Le déclin de la CGT qui passe derrière la CFDT, c'est un syndicat qui ne se renouvelle pas assez.
C'est historique parce que la CFDT n'avait jamais été première dans le privé. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent et qu'il faut aussi que ceux qui nous gouvernent entendent cela, que le syndicalisme est sans doute en train de changer de visage. Ça serait bien qu'on fasse un peu plus de confiance au syndicalisme réformiste.
Merci beaucoup Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, premier invité ce soir du Club de la Presse d'Europe 1. On marque une pause et on se retrouve avec un spécialiste de la cybersécurité pour parler de cette attaque mondiale. Il y a une dizaine de jours, à tout de suite.
Et vous posez vos questions sur Twitter avec le hashtag #1soir et sur la page Facebook d'Europe 1.
19h-20h,
le Club de la Presse d'Europe 1 est engagé. Le Club de la Presse d'Europe 1, Nicolas Poincaré.
Le Club de la Presse d'Europe 1 jusqu'à 20h en direct avec un spécialiste de la cybersécurité, de la cyber-insécurité aussi. Bonsoir Nicolas Arpaillon.
Bonsoir.
Vous êtes interrogé ce soir par Anna Cabana et Bruno Jeudy et vous êtes le directeur scientifique à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. Vous êtes aussi l'auteur d'un « Que sais-je sur la cybersécurité ?». Alors on le sait, il y a une dizaine de jours, des entreprises du monde entier ont été victimes d'une cyberattaque. 300 000 entreprises, si je ne me trompe pas, des usines Renault ont dû interrompre leur chaîne de fabrication. Les hôpitaux britanniques ont été impactés. On a compris que les pirates demandaient des rançons à ces milliers d'entreprises. 10 jours après, est-ce qu'on peut faire un point? Est-ce qu'on y voit plus clair sur ce qui s'est passé exactement?
Alors, effectivement, le mode opératoire est connu, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui va chiffrer, qui va rendre donc illisibles les informations qui sont détenues dans des ordinateurs et vous allez devoir payer une rançon en échange. On est à la fois dans une somme qui est peu chère, 300 euros, $300. C'est en général des montants qui, en fait, doivent vous inciter à ne pas trop réfléchir, à dire ça vaut la peine, je peux le faire. Par contre, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est ce qui s'appelle un verre. Un verre, c'est que, en fait, c'est votre système qui va vous désigner comme cible. Je ne veux pas attaquer Europe 1, je veux attaquer les gens qui ont cette défaillance que j'ai préalablement identifiée dans leur système informatique. Ça veut dire qu'il n'a rien contre vous, il n'est pas dans une démarche politique de manière à vous cibler pour des raisons revanchardes. Non, non. En fait, on va automatiquement trouver les équipements qui ont cette défaillance informatique, cette non mise à jour, et ça va la désigner comme cible.
Et alors, ce qu'on comprend pas très bien, c'est comment ça marche, comment une chaîne automobile doit s'arrêter, comment les hôpitaux britanniques perdent les dossiers de leurs patients.
L'informatique, en fait, ça, les entreprises sont informatisées maintenant depuis des décennies. La seule chose, c'est qu'il faut le voir comme en archéologie, par couches successives. Simplement, on ne met pas toujours à jour les couches anciennes, les plus basses. Pourquoi ? Parce que tant que ça fonctionne, c'est pas besoin de mobiliser les investissements. Et puis, on a toujours un doute que les mises à jour ne viennent pas perturber les applications qu'on va au fur et à mesure déployer. Et ce qui fait que tant que ça fonctionne, so far, so good, comme disent les Anglais, jusque-là, tout va bien. Et ce qui fait que lorsque vous êtes justement détenteur de cette faille, c'est-à-dire la non-mise à jour de ces équipements, vous êtes désigné comme cible. Et là, c'est un peu le mystère, puisque vous ignorez un peu votre état de santé numérique. Et c'est là que c'est une fois que vous êtes attaqué, que vous êtes conscient de votre faiblesse.
Et alors, on ne sait pas combien des 300 000 entreprises attaquées dans le monde ont subi des dommages. On ne sait pas combien ont payé.
Alors, exactement. Alors, on sait à peu près si, parce que c'est l'avantage de la monnaie qui a été utilisée. C'est une monnaie virtuelle qu'on appelle, en l'occurrence, le Bitcoin. Et ce sont des comptes publics. C'est-à-dire, on voit la cagnotte. On ne sait pas qui est le bénéficiaire de cette cagnotte, mais on voit le niveau monter. Là, on est sur quelque chose qui n'est pas rentable au sens. Alors, il est rentable, mais ce n'est pas un succès économique. Pourquoi ? Quelques centaines de milliers, l'équivalent de centaines de milliers d'euros, très sincèrement, tout ça pour ça, à l'échelle planétaire, on ne peut pas dire que c'est pour ça que la piste crapuleuse devra être discutée, parce que, effectivement, alors, c'est rentable, puisque le logiciel malveillant ne coûte pas très très cher, et puis, effectivement, c'est un automatisme qui ne demande pas la mobilisation d'êtres humains pour le diffuser. Par contre, effectivement, on n'est pas dans quelque chose de tout à fait impressionnant par la performance commerciale, le rendement commercial.
Et c'est pour ça que vous nous dites que la piste crapuleuse n'est pas forcément la bonne.
Elle peut être également un test de la robustesse des États. Un peu comme quand quelqu'un, vous savez, va lancer un caillou contre une fenêtre d'une villa qu'il veut cambrioler et voir, tiens, est-ce qu'il y a une alarme ? Est-ce qu'il y a des vigiles qui arrivent ? Est-ce qu'il y a une patrouille de police ? Est-ce que des voisins appellent ? Et à ce moment-là, vous restez une heure tapis dans l'ombre et vous pouvez, à ce moment-là, envisager une heure après de rentrer effectivement dans la villa. Et donc là, on a peut-être également une phase de test. La robustesse, est-ce que les États s'organisent ? Est-ce qu'ils ont des plans B ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont mis de côté des systèmes de duplication ? On parle de sauvegarde des données pour limiter l'impact de ces attaques. Est-ce qu'il y a des plans de secours ? C'est l'occasion de le tester grandeur nature.
Bruno, j'ai dit.
Des grandes entreprises attaquées, il y a eu aussi des élections qui ont été, ou en tout cas des tentatives de hacking sur des élections à l'étranger. Et en France, en toute fin de campagne, il y a eu des tentatives de piratage.
Alors il y a eu un piratage qui a réussi. Par contre,
dans les dernières heures de la campagne, est-ce que ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un jour un scrutin biaisé complètement justement par des hackers ?
Alors techniquement, oui, et c'est pour ça d'ailleurs que l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information a déconseillé formellement le recours au vote électronique pour les Français de l'étranger qui avait été envisagé pour l'élection présidentielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement un doute sur la sincérité du scrutin, un doute sur éventuellement l'intégrité des votes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu, alors un certain nombre de candidats se sont un peu émus de cette question, mais en fait l'ANSSI, l'Agence nationale, qui est un service dépendant du Premier ministre, a fait une analyse technique pour dire nous ne pouvons pas garantir la sécurité du vote électronique, donc ça effectivement c'est un choix radical.
Anna Cabana.
Mais ça veut dire que ça va devenir un danger de plus en plus grand qui va peser notamment sur
certainement.
Sur
alors
des
on va
moments...
distinguer deux types d'attaques, les attaques sur les tuyaux, les systèmes, parler par exemple du système de messagerie du parti En Marche, également de ce qui est arrivé au Parti démocrate lors de la campagne américaine pour la candidate Hillary Clinton. On rentre dans le système et ensuite il y a la deuxième phase, la phase informationnelle, soit pour publier des informations ayant vocation à rester confidentielles, soit en fabriquant de fausses nouvelles de manière à créer la polémique. Et c'est vrai que M. Macron a été victime un peu du mélange des deux, en quelque sorte, puisqu'on a publié une grande masse d'informations concernant le fonctionnement interne de son équipe de campagne, mais il n'y avait rien de répréhensible dedans. En fait, ceux qui l'ont fait misaient sur l'idée de dire si c'est confidentiel, il y a forcément des choses cachées, il y a forcément des choses honteuses, inquiétez-vous-en. Et nous avons jeté une espèce d'opprobre sur la personnalité du candidat et de son équipe. On voyait qu'au final, maintenant qu'on a pu faire l'analyse a posteriori, posteriori, il n'y avait rien de répréhensible dans les documents qui ont été fuités de manière mécanique.
C'est effrayant que ça arrive en fin de campagne présidentielle. Il y a quelque chose, c'est dramatique, quel que soit.
Même sur le coup, j'ai souvenir dans ce même studio où effectivement, en plus, les médias étaient dans une situation presque schizophrénique, puisque vous aviez les médias étrangers et Internet qui bruissaient de cette information et qui disaient.
Et vous ne pouviez pas en parler.
Alors, donne encore à l'idée que justement, les médias établis professionnels et taisaient des informations qui étaient librement accessibles sur Internet et que les.
Parce qu'on était, il faut l'expliquer, parce qu'on était dans le tout dernier week-end.
La loi, c'est ça. Exactement, par la période de réserve. Et donc, vous voyez bien que là, on était totalement dans cette deuxième aspect, cette deuxième dimension de la cyberguerre, qui est l'aspect informationnel. On n'est plus là sur l'attaque informatique, on est bien sur la manipulation des contenus, de l'information pour en faire un levier d'influence et d'agite propre.
Mais alors, on a des gens donc, qui ont été capables, à la veille d'un scrutin présidentiel, de rentrer dans le système informatique du grand favori, puisque le vendredi, on pouvait se douter qu'Emmanuel Macron allait gagner, de mettre sur Internet toutes ces informations qui n'avaient pas énormément d'intérêt. La question qu'on se pose, c'est qui peut faire ça?
Alors, en fait, ça ne demande pas forcément des ressources conséquentes. Pourquoi? Parce que attaquer une équipe de campagne, ce sont des volontaires qui ne se connaissent pas forcément intimement. Ce sont des gens qui vont utiliser souvent leurs équipements personnels. On va viser la facilité. Pourquoi? Parce que on va pas consacrer beaucoup de ressources dans l'équipe de campagne à ces communications. Pourquoi? Parce que c'est une structure précaire. Elle n'a pas vocation à durer au-delà de l'élection. Moi, j'avais suggéré à ce moment-là une proposition qui est de dire, il faudrait peut-être que ces dépenses, ces investissements en sécurité soient sortis des plafonds des dépenses de campagne. Pourquoi ? Pour qu'un directeur de campagne n'ait pas un arbitrage à faire entre un énième tractage ou un énième meeting et se dire, voilà, une protection. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a vu un certain tâtonnement, il faut être très clair. Prenons l'exemple de l'équipe de campagne de M. Macron, puisqu'il a communiqué là-dessus, avait opté, et d'ailleurs c'est pour ça qu'un certain nombre de messages, il n'y a pas de messages confidentiels, puisque eux utilisaient une messagerie chiffrée d'origine russe qui s'appelle Telegram. Et donc vous voyez que la prise de conscience grâce à des informations préalables de cette même agence gouvernementale, l'ANSSI, qui, à l'automne, avait réuni les représentants des candidats en leur disant « Attention, prenons l'exemple états-unien, nous pouvons faire l'objet de campagnes de déstabilisation, protégez-vous ». Bon, là, l'option a été retenue de prendre une messagerie d'origine russe.
Alors, Anna Canada, bouille de vous poser encore plein de questions. Nicolas Arpaillan, spécialiste en cybersécurité, mais ce sera juste après une pause. À tout de suite.
Jusqu'à 20h, le Club de la Presse, également en vidéo sur europe1.fr. La suite du Club de la Presse d'Europe 1 avec vous, Nicolas Poincaré.
Et on parle de cybersécurité avec un expert, Nicolas Arpaillan, directeur scientifique à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. Vous répondez aux questions de Bruno Jeudy et d'Anna Cabana maintenant.
Oui, alors quand on voit les cyberattaques maintenant qui visent les politiques, y compris en fin de campagne présidentielle, le favori de la présidentielle Emmanuel Macron, on se demande si dans l'exécutif, il faudrait, si on était raisonnable, que chaque grand ministère ait un cyberprotecteur.
Alors il existe, voilà. C'est l'ANSSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Le problème, c'est pas tellement la technicité, c'est pas tellement la loi, ça va être le quotidien, la pratique. Il s'avère que les téléphones sécurisés, dans le livre de vos confrères Davet et Lhomme, il y a un passage effectivement où Manuel Valls va voir François Hollande et lui dit, dis donc, de temps en temps, si tu pouvais utiliser le téléphone sécurisé à ta disposition, parce que je suis ton ministre, mais j'ai accès à tes conversations. Donc manifestement, c'est un sujet qui est important, c'est la discipline. Lorsque le Secret Service, c'est-à-dire le service de protection du président des États-Unis, dit au président, vous ne pouvez pas sortir de la voiture parce que votre sécurité n'est pas en jeu, est en jeu, le président, tout chef des armées des États-Unis qu'il est, s'exécute. Nous avons vu qu'un certain nombre de dirigeants français prenaient des libertés avec les règles de sécurité, en scooter ou pas, et effectivement, c'est pas forcément
pas de qui vous voulez parler,
la sécurité.
Pas du tout.
Non, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est pas forcément la sécurité qui est, en tout cas, la respectée, c'est la décision du politique. Et par contre, c'est vrai que la sécurité, c'est contraignant. Il faut utiliser des systèmes chiffrés de téléphonie sécurisés. Il faut effectivement ne pas utiliser des messagerie que vous connaissez, Yahoo, Gmail, etc., ça oblige à une relative discipline qui n'est pas forcément dans la nature. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de culture de sécurité.
Oui, mais justement, la dramatisation, si vous voulez, des enjeux et la cybermenace qui pèse de plus en plus lourd peut peut-être bouger, faire changer les mœurs politiques et les pratiques au sein même de l'exécutif.
Certainement. Simplement, c'est une hygiène.
Mais vous
ne
le sentez pas
hygiène.
Encore. C'est non, pas en quelque tout cas, chose c'est une que, discipline, vous avez, que vous avez ressenti.
Pas encore, parce que ce n'est pas encore une discipline quotidienne. Le problème, problème de la sécurité, c'est une astreinte de tous les instants pour éviter justement. Pourquoi ? Parce que le pirate va faire ce qu'on appelle avec l'ingénierie sociale, trouver le maillon faible. Lorsque, et ils ont avoué, ils se reconnu leur responsabilité, les États-Unis ont piraté l'intranet de la présidence française en 2012. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont passés par le compte Facebook d'un collaborateur du président qui avait sur son même ordinateur, ce qui n'est pas recommandé, c'est un euphémisme, l'accès à l'intranet de l'Élysée et l'accès à son compte Facebook. Donc on voit bien qu'il y a cette analyse, si la porte est blindée et semble très robuste, qu'est-ce que fait le cambrioleur ? Il essaye de frapper contre le mur à côté, de s'apercevoir que c'est du parpaing, c'est plus fragile et c'est par là qu'il va rentrer. Il n'y a pas de prime à la technicité. Ce qui compte, la bonne solution en termes d'attaque, c'est celle qui marche.
Avons-nous encore les moyens de notre cybersécurité ? Parce que tout ça, ça coûte cher, que ce soit pour les États, que ce soit pour les grandes entreprises. Est-ce qu'on a les moyens par rapport à ce que les Américains dépensent pour protéger leurs données en matière de défense ?
Là où vous avez raison, c'est que la faille qui a affecté un certain nombre de milliers d'entreprises, en fait, devait être corrigée. Cette correction, elle était connue depuis mars, en tout cas par la communauté économique depuis mars dernier. Et on voit bien qu'à un moment, des investissements n'ont pas été faits pour physiquement le faire. Pourquoi ? Parce que les gens voient la sécurité comme étant quelque chose qui ne va pas améliorer les marges, ne va pas permettre de vendre un produit mieux, plus cher, ne pas être plus populaire. C'est juste, ça va permettre la continuité de l'activité. Et en fait, là où on voit une pression qui est en train de s'organiser, elle est assez transparente, c'est celle des marchés financiers. Vous avez des agences de notation, Moody's, Standard & Poor's, vous savez, ces agences qui vont donner des notes aux entreprises cotées et qui vont leur dire, attention, si t'as...
Si t'as le triple A.
Voilà, effectivement, le triple A pour les plus méritants. Si ta durabilité, si le fait que ton activité ne peut pas continuer dans de bonnes conditions, moi, je vais pénaliser, je vais le prendre en compte dans ta notation. Et là, ça veut dire qu'on quitte le champ de la technique, on rentre vraiment dans la finance, on rentre dans la bourse. Et ça, ce sont des critères que les directions générales de grands groupes intègrent tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a également une réglementation européenne qui est un règlement européen qui va rentrer en vigueur en France, mais comme dans tous les pays de l'Union européenne, au mois de mai 2018, qui dit si vos données, les données personnelles que vous gérez, ça peut être celle de vos clients, mais ça peut être celle de vos salariés, avec leur adresse, leur vie familiale, etc., si elles fuitent sur Internet, si on les vole et qu'on les retrouve sur Internet, votre responsabilité peut être mise en cause. Là, la sanction va jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial globalisé. Et là, vous voyez que dans un conseil d'administration de grande entreprise, 4% du chiffre d'affaires mondial globalisé, plafonné à 20 millions d'euros, on voit que ça, c'est quelque chose qui évoque tout à fait des perspectives dramatiques. Et donc, c'est la réglementation. C'est justement un certain nombre de pressions de marchés financiers qui vont peut-être servir à structurer cette activité et à avoir cette prise de conscience. Mais ça demande surtout que cet effort soit maintenu sur la durée.
Alors Nicolas Arpagnan, vous nous disiez que cette attaque mondiale il y a une dizaine de jours contre 300 000 entreprises, c'était peut-être un test. Alors du coup, on a envie de se projeter. Qu'est-ce que ça pourrait être le pire ? Qu'est-ce que ça pourrait être la prochaine étape ?
Nicolas, il veut du pire.
Non, mais est-ce qu'à terme, les gens qui ont été capables d'interrompre la chaîne de production de Renault seront un jour capables d'attaquer une centrale nucléaire ?
Alors,
de la faire exploser ?
Alors, ils l'ont fait en Iran, puisque nous avons le cas avec un autre verre qui a effectivement s'appelé Stuxnet, c'était le nom qu'on lui a donné, a fait avec des centrifugeuses en Iran, où à distance, en plus, les centrifugeuses n'étaient pas reliées à Internet, donc il a fallu que quelqu'un connecte une des infrastructures iraniennes, et le moyen qu'a trouvé, alors là, on est a priori dans l'attaque d'origine étatique, a fait en sorte que ces machines soient déréglées et que leur dysfonctionnement les mette hors d'état, justement, de fonctionner. En fait, on va s'apercevoir qu'il va falloir en fait se préparer à fonctionner dans un univers rustique, dans un univers dégradé. Qu'est-ce qui se passe lorsque une attaque survient ? Est-ce que je suis capable, un, de l'identifier rapidement, deux, de la limiter, la circonscrire de manière à ce qu'elle ne se propage pas ? Et d'ailleurs, c'était une des recommandations quand ce verre informatique se diffusait. Il fallait isoler, pas couper le courant, mais isoler l'ordinateur infecté des autres de manière à ce qu'il ne communique pas son infection. Et troisième chose, faire en sorte d'avoir conservé des copies, des sauvegardes. Pourquoi ? Pour en fait limiter l'impact de cette information qui est altérée ou dans laquelle on n'a plus confiance, pouvoir la rechercher. Par contre, ça suppose évidemment qu'on ait fait ce travail préalable de cartographie, d'isolement, de manière à ce qu'il y ait ce cloisonnement. Je fais souvent l'analogie du bateau. Avant le Titanic, on avait des coques ouvertes et il s'avère que dès que vous rencontriez un caillou, un iceberg, l'eau remplissait la coque, le bateau coulait. Qu'est-ce qu'on a fait ? Des caissons étanches. Ce qui fait que quand vous avez une voie d'eau, seulement un caisson est inondé. Évidemment, pour la navigation, c'est moins confortable, mais le bateau reste à flot et vous pouvez le ramener au port pour réparer.
Ouais, le Titanic, ça n'a pas marché.
Et non, semble-t-il, mais au moins, il a servi. Vous savez, on dit les optimistes ont inventé l'avion et les pessimistes ont inventé le parachute. Et ben là, il faut partir de l'idée qu'on peut trouver de ces circonstances qui sont effectivement, sinon effrayantes, en tout cas préoccupantes, des leçons d'organisation pour pallier. On ne pourra pas empêcher l'attaque, il faut juste l'identifier le plus tôt, en limiter la diffusion et permettre un retour à la situation normale dans les meilleurs délais.
Mais est-ce qu'il faut craindre des cyberterroristes qui un jour seraient capables de faire chuter des avions, qui seraient capables de faire se télescoper des trains
Il n'y a pas de raison qui imposerait, qui interdirait cela. Pourquoi ? Parce que ce que la technique fait, et si l'homme décide de justement manipuler ces systèmes d'information, il n'y a pas d'objection qui serait vraiment définitive et permanente. Par contre, l'idée justement, c'est d'en réduire l'impact, c'est de faire en sorte qu'on ait des solutions chiffrées, de manière à ce que ce soit plus compliqué d'y accéder. Faire en sorte qu'on ait une veille attentive sur les comportements anormaux. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça oblige à beaucoup, beaucoup d'investissements intellectuels.
Est-ce qu'il faut, du coup, comme le souhaite par exemple le souhaitait Jean-Yves Le Drian lorsqu'il était ministre de la Défense, créer une quatrième armée, une cyberarmée ?
Alors, c'est déjà le cas. Simplement, on a créé
une structure qui reste...
Elle existe. Alors, en fait, on a un officier général en charge de la cyberdéfense au ministère de la Défense, qui est un vice-amiral. On crée ça sous forme d'un commandement cyber, un peu effectivement d'avoir un territoire air, terre, mer et le domaine cyber. Il y a un handicap, une difficulté, une marche à franchir, ce sont les personnels. Trouver les gens formés, compétents. Pourquoi ? Parce que pendant des années, on n'a pas investi dans ce domaine-là. Et donc là, maintenant, on est dans la phase de rattrapage. Le problème, c'est que les entreprises, grandes entreprises, recherchent ces profils. Les prestataires de services cherchent ces profils. Les administrations civiles, l'ANSSI et les ministères en cherchent. Et également le ministère de la Défense. Donc vous voyez que là, il y a une vraie pénurie sur l'emploi. Si vous avez des enfants, c'est le domaine dans lequel il faut se former actuellement. Les carrières sont nombreuses et tout à fait lucratives.
Et on comprend que vous faites un métier d'avenir, malheureusement. Nicolas Arpaillan, spécialiste en cybersécurité. Je renvoie à votre Que sais-je qui porte ce titre, la cybersécurité. Merci Anna Cabana, Bruno Jeudy. Bon week-end, Omblin. Je vous retrouve lundi prochain.
À lundi, Nicolas Poincaré. C'était le club de la presse d'Europe 1. Dans un instant, Nico Saliagas avec son invité Isabelle Boulay.